Bonjour et bienvenue. J'espère que tout s'est bien passé pour vous depuis les quelques heures où vous êtes ici. Après la très belle et très enrichissante conférence que nous avons reçue hier soir, vous allez passager de actif de l'université d'été vivre l'expérience du trou d'air, parce que ce ne sera pas le même niveau sans doute, ni le même type d'intervention. Vous en avez le titre qui vous est affiché. Ce titre, disons-le d'emblée, c'était un titre qui était en chantier dans notre travail du programme, parce que sur cette thématique-là, nous recherchions des intervenants qui soient des spécialistes. Plusieurs ont été sollicités et tous se sont désistés, ce qui vous explique que, tombant sur quelqu'un qui est scientifiquement beaucoup moins légitime, la communication aussi risque d'être en chantier. Enfin, j'espère qu'elle ne le sera pas trop. Et nous l'avions imaginé en début d'université d'été, et nous l'avons finalement déplacé pour qu'elle commence les travaux de cette journée, parce que l'idée que nous poursuivions en préparant le programme, c'était de commencer par une sorte d'état des lieux, pourrait-on dire, de ce qui se pense, de ce qui est reçu, de ce qui est perçu aujourd'hui comme... alors, tout ça reste très vague pour l'instant, hein, comme une vision dominante de la valeur, de la légitimité, de la justesse, la justice aussi, de ces concepts. De ces concepts qui forment aussi, pour nous, compte tenu du thème que nous avons retenu, à la fois l'arrière-plan, mais aussi le cadre. Ça continue à être largement le cadre mental, culturel et social dans lequel nous vivons. Et pourquoi en parler? Puisque, a priori, on n'est pas toujours obligé de repartir de l'évaluation de son propre cadre, c'est que, précisément, et c'était le propos du titre de l'université d'été, c'est que ce cadre lui-même a l'air au moins de bouger, peut-être de s'effondrer. Et que est posée la question, elle est posée avec plus ou moins de sincérité, elle est posée avec plus ou moins de romantisme, elle est posée avec plus ou moins de gratuité, pourrait-on dire, c'est-à-dire parfois non sans arrière-pensée politique et idéologique en particulier. Est-ce que de tout cela qui forme notre réalité et les principes dans lesquels nous vivons, à partir desquels nous semblions vivre en tout cas, est-ce que tout ça, il faut s'en débarrasser? Est-ce que tout ça, il faut le brûler? Alors c'est à la fois le problème vers lequel est envoyé la doctrine sociale de l'Église, et c'est le contexte dans lequel nous sommes amenés à réfléchir. Disant cela, tout de suite, il faut aussi poser un certain nombre de limites à l'exercice, les rappeler. D'abord, tenant à l'ampleur du champ retenu, parce que ça ressemble un peu à un inventaire à la Prévert, mais il y a tout de même une forme de cohérence entre ces notions. C'est-à-dire que pour nous, l'univers dans lequel nous vivons, ou l'univers dans lequel nous vivions, c'est un univers de la légitimité et de la nécessité et de la valeur du travail humain comme contribution à la croissance matérielle et comme titre de légitimation personnelle aussi, d'épanouissement personnel, dans cette contribution à la croissance, dans un univers de relations interpersonnelles qui a pour modèle, ça c'est un des constats et peut-être aussi un des problèmes, l'échange, et l'échange monétisable, l'échange marchand, et dans un univers aussi qui, sur la base de cet échange, voit la société, en quelque sorte, à la fois étendre son horizon, étendre son cadre, et se pacifier, s'unifier en même temps. Ça, c'est un horizon qui était largement le nôtre, qui correspond à un certain nombre également de présupposés idéologiques, et qui forme quand même, au-delà de l'ampleur du champ, voyez, un ensemble qui a aussi sa logique. Quant à la question de l'opinion, il faut s'y arrêter un petit peu aussi. Ça, c'est un deuxième aspect de difficulté. D'abord, pour un simple constat de méthodologie pratique, on pourrait dire même quantitative, c'est que l'opinion, c'est à mettre au pluriel en réalité. C'est vrai que ce dont nous allons parler va beaucoup nous renvoyer à notre univers géoculturel. Faute de temps, faute de compétences aussi de l'intervenant, on va quand même être ramené à ce qui forme un peu notre horizon à nous. C'est vrai que dans d'autres aires géoculturelles, sous d'autres contraintes économiques, dans d'autres réalités, pas tout à fait la même perception du travail, pas tout à fait la même perception de l'échange marchand, pas tout à fait la même conscience d'appartenir à un ensemble globalisé. Tout cela, évidemment, il faut en tenir compte pour délimiter notre sujet sans trop nous perdre non plus dans trop de considérations comparatives. Un deuxième problème qui tient là aussi à l'opinion, c'est non pas la question des opinions ou de l'opinion, mais c'est de savoir ce qu'est l'opinion tout court. L'opinion est sa connaissance. Alors, au moins par convention, ce que nous pourrions dire, c'est que par opinion, on pourrait entendre l'ensemble des expressions et des qualifications des faits vécus, ressentis, à partir d'informations, à partir de connaissances, à partir d'états, à partir de représentations, sous un jugement évaluatif, qui est plus ou moins rationnel, et qui a une traduction dans l'ordre social par des actions, par des choix, par des abstentions. S'abstenir, c'est agir, hein. S'abstenir de faire quelque chose, c'est agir. Et une fois qu'on a dit ça, on donne une définition très maladroite qui peut être relativement opérative, mais qui nous emmène tout de suite à une autre difficulté, qui est le troisième terrain de difficulté méthodologique, c'est comment je vais connaître cette opinion. Qu'est-ce que je peux en savoir ? D'abord, il y a dans les motifs de l'agir humain en société d'autres paramètres que ceux que je viens d'évoquer. Hein ? Et aujourd'hui, ce petit coefficient, ce delta, cet inconnu a pris une importance significative, par exemple la part de l'émotion. J'ai listé et articulé toute une série d'éléments pour essayer de définir l'opinion. Par exemple, ma mesure de l'opinion, c'est un choix électoral, là aussi on va en reparler, la part de l'émotion, à l'évidence, semble être allée croissant. Elle n'a jamais été inexistante, mais là, désormais, c'est un peu une marque contemporaine, c'est de vivre très largement sous un empire de l'émotion utilisée comme un paramètre de pression sur l'opinion, de détermination de l'opinion. Puis il y a l'écart aussi entre ce que je pense et ce que je fais. Ça, c'est un autre élément qui rend difficile l'appréciation de l'opinion. Je suis, j'ai un jugement sévère sur tel point, je suis en colère. Ça ne va pas forcément se traduire par une action, par exemple une action politique, qui ira dans le sens de l'expression de cette colère. Il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Et il y a bien sûr, je viens d'y faire allusion, aussi pour la connaissance de l'opinion, cet aspect qui oblige toujours à un peu de mesure méthodologique et à de la prudence, à savoir que, compte tenu de tous ces paramètres qui forment l'opinion, l'opinion, ça se connaît, je vais le dire très schématiquement, mais l'opinion, il est possible que ça se fabrique. Et là, on entre dans une autre difficulté quant à avoir une appréciation de l'opinion réelle et non pas de l'opinion orientée. Alors, à partir de tout ça et compte tenu de tous ces écueils, ça en fait beaucoup, quels sont mes moyens de connaître l'opinion ? Est-ce que j'ai des outils quantitatifs ? Alors, il y a des outils quantitatifs. Vous en avez tous entendu parler, vous en avez peut-être été utilisateur, vous en avez été concepteur même, peut-être, et vous en savez donc aussi l'utilité, mais les limites. Que pensez-vous de votre travail actuel ? Trouvez-vous que le travail est une chose importante dans votre vie ? Je peux avoir des batteries, et alors il y a de grandes enquêtes très bien faites, hein, dont l'utilité est pas seulement la rigueur, mais aussi qu'elles sont ce qu'on appelle des enquêtes longitudinales, hein, qu'elles permettent d'avoir des valeurs, si vous voulez, sur des périodes de 20, 30 ans. Bon, ça, c'est assez intéressant pour les sciences sociales. Bon, elles sont un peu, pour certaines, difficiles d'accès, mais on en a de temps en temps des extraits, mais tout ça, c'est pas le propos ici, ce serait un peu technique, présente aussi un certain nombre de fragilités, un certain nombre de défauts. Même très intuitivement, la question posée, la taille de l'échantillon, etc. Enfin, voilà, toute une série de choses qui rendent l'instrument un petit peu fragile. Parce que ça, c'est relativement tentant. Et alors, comme nous sommes comme la poussière n'est pas encore retombée, pour nous en particulier, dans notre pays, et dans les environs de notre pays, c'est évidemment un état de mesure possible assez tentant. Est-ce que les résultats politiques, c'est un bon moyen de connaître l'opinion ? De connaître l'état de l'expression du corps électoral, oui, c'est la définition de choix politique par le biais de l'élection. Est-ce que ça me dit exactement l'opinion ? Ça m'en dit un peu, mais très maladroitement, hein, que les résultats électoraux ou les choix électoraux, ce sont des choix aussi par agrégation. Donc, dans une majorité, il y a beaucoup de choses très composites. Hein, si une majorité électorale était traduite en termes culinaires, elle serait le plus souvent au minimum indigeste, sinon très très dangereuse à consommer, parce qu'elle contient toute une série de produits dont l'association en cuisine ou en chimie, par exemple, poserait des problèmes de sécurité même. Hein. Donc c'est une tambouille, hein, n'est-ce pas ? C'est un peu péjoratif de dire les choses comme ça, mais il y a quand même un côté tambouille, hein, dans les choix électoraux. Et puis des choix électoraux, ça se fait par détermination relative aussi. Hein. C'est-à-dire que l'adhésion, est souvent moins importante que l'exclusion. Alors, on a un exercice d'école hein, en France, parce qu'on a des résultats électoraux récents qui nous donnent une traduction en termes de sièges parlementaires. Et là, il y a une question politique, je ne commente pas la question politique, mais il y a une véritable question épistémologique, hein, il y a un saut épistémologique. Comment faire que, ou comment considérer, ou comment admettre qu'une majorité de voix contre puisse être considérée comme l'expression d'une majorité de voix pour, hein, vous voyez ce que je veux dire? Une grande partie du problème, là, sans entrer dans les arrière-pensées politiques, c'est un problème épistémologique, quoi, hein, parce que la traduction de premier rang du résultat, c'est pas un résultat pour, c'est un résultat contre. Bon. Mais c'est proprement un résultat politique légitime, c'est un résultat contre. Alors ce contre, il ne fait pas un pour, pas nécessairement en tout cas. Alors, ça donne une indication, mais vous voyez qu'au moins pour ces éléments-là, et on pourra en lister d'autres, ça donne aussi bien des limites, et ça impose bien des réserves quant à considérer les résultats électoraux. Pour autant, ça pourra quand même nous être utile. Parfois aussi, il y a un autre aspect compte tenu de la définition de l'opinion que j'ai proposé, qui pose une difficulté justement dans les choix électoraux. C'est que la logique de formulation du choix électoral est souvent, alors aujourd'hui on peut dire souvent, hein, une logique d'expression plutôt qu'une logique d'action. Je ne vote pas pour que quelque chose se fasse de précis. Je vote pour dire que je ne suis pas content. Et qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est le sens de votre vote? Il faut que ça change. Mais qu'est-ce qui doit changer? Le dessert à la cantine, qu'est-ce qui doit changer? Parce qu'il faut que ça change. Vous voyez là, on a mis ça « no » derrière. Bon, alors, il y avait un sketch célèbre il y a quelques années. Mais votre programme, c'est quoi? On est contre. Bon, voilà, oui, bon, effectivement. Alors ça peut être dit sur le ton de l'humour, mais ça a une vraie réalité aussi. Hein. Donc ça me donne des indications, parce que là, en termes d'opinion, qui est un écart entre l'expression et l'action, finalement, n'est pas forcément si important que ça, hein, parce que l'expression déjà m'intéresse. Elle m'intéresse beaucoup. Mais ça donne aussi les limites. Hein. Parce que en démocratie, la démocratie, c'est pas c'est une chose qu'on a très très largement passée sous silence et qui est peut-être un des problèmes clés présents et ici et ailleurs. C'est pas un lieu d'expression. C'est un système de gouvernement. Si je m'exprime, c'est pour gouverner. C'est pour faire des choses dans un certain sens. Alors, c'est un principe de gouvernement représentatif. Mais de gouvernement, le mot important, c'est gouvernement. Donc, je ne dis pas quelque chose pour dire que je dis. Histoire que j'ai dit, et voilà, c'est dit. Hein? Non, c'est dire pour faire. Et il faut bien en faire quelque chose. Hein? Il ne s'agit pas que de dire. Il faut dire pour faire. Système de gouvernement représentatif. Alors, quand même, le simple fait de s'en tenir à l'expression a quand même son utilité pour connaître un peu ce que c'est que... pour essayer de connaître un petit peu, d'identifier un petit peu ce que c'est que l'opinion. Il y a un autre aspect qui est un aspect intéressant. Alors là, parfois en sciences sociales, on aime bien les démarches un peu régressives comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'opinion, et puis il y a la question de l'opinion sur l'opinion. Hein? Mon opinion sur le fait que les gens pensent que. Voilà. Alors, on est très très fort là-dedans aussi. Hein? Aujourd'hui, en France, plus personne veut travailler. verbatim. On pourrait signer peut-être un certain nombre d'entre nous cette phrase, mais c'est quoi ça? C'est un état de fait? Ou c'est parce que il n'y avait personne au guichet et que j'ai fait 45 minutes la queue, ou que j'ai téléphoné 11 fois au service après-vente et qu'on ne m'a pas répondu, alors de toute façon en France les gens ne veulent plus travailler. Voilà, là aussi il y a un saut que je fais aisément, mais qui est plutôt mon opinion sur l'opinion, hein, mon appréciation à un instant T, hein, avec une valeur de jugement qui est quand même une valeur très très faible, hein, c'est-à-dire que raccrochant avec colère, voilà, au bout du 11e appel sans réponse, plus personne ne veut travailler en France. Bon. Il y a un autre cas d'école, hein, tout récent, là, c'est tout frais, ça a quelques heures, quelques jours, hein. À la rentrée, 1500 internes en moins dans les hôpitaux. Alors, vous savez qu'il y a eu une réforme des études de médecine et qu'il y a eu une réforme des études d'accès à l'internat. Une épreuve a été rajoutée et les résultats à cette épreuve ont été nationalement et positivement calamiteux. Ce qui fait que beaucoup de candidats ne peuvent pas accéder à l'internat. Donc il y a moins d'internes là où il faudrait plus de personnel dans les hôpitaux et où 1500 internes vont beaucoup manquer, sans aucun doute, au moins pendant une année. Alors je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais si vous avez lu ça, vous avez vu que, oh là là, voyez, c'est bien la preuve que en France les gens ne veulent plus travailler. Ces étudiants en médecine, c'est tous des feignants, ils ne veulent plus faire des études de médecine parce que c'est trop compliqué. Ça, c'est une explication à documenter, ça, quand même. Parce qu'il y a plutôt l'effet mécanique de l'épreuve et de la réforme, effet non évalué, d'ailleurs, non anticipé, et je peux rechercher des causes un peu plus profondes dans le niveau moyen des étudiants en médecine, qui n'arrivent pas à passer cette épreuve écrite particulière. Ça ne veut pas dire que... Est-ce qu'après, ça veut dire qu'ils ont raté l'épreuve parce qu'ils n'ont pas assez travaillé, ou qu'ils ont raté l'épreuve ayant travaillé parce qu'ils ne sont pas capables de la franchir? C'est un autre aspect, ça. Mais là, je suis typiquement dans une situation d'opinion sur l'opinion, bon, qui m'en dit, finalement, pas plus que ça. Alors, pourquoi avoir... Vous voyez, situer tout ça, ou pourquoi resituer tout ça dans une discussion ou dans une perspective de réflexion, qui est plutôt la perspective de réflexion de la doctrine sociale de l'Église, ce qu'on essaie de faire sur ce champ du travail, de l'économie. Parce que on pourrait faire l'hypothèse que face à cela, effectivement, et c'est une expression qui a été employée hier et peut-être qui reviendra plusieurs fois, et qui est une expression, je pense, à discuter, il y aurait une réponse chrétienne. Il y aurait la réponse chrétienne. Finalement, la doctrine sociale de l'Église, ce serait le moyen de répondre à ces maux, hein, de rattraper un peu les choses. Je ne vais pas trop m'étendre sur cette question, parce que ça pourra faire l'objet de bien des discussions, sans doute, et probablement d'autres intervenants auront quelque chose à dire à ce sujet également. Mais outre que... On risque toujours, avec cette idée de réponse chrétienne, de moment chrétien, bon, de basculer un peu dans le mythe de la solution. Il existe une solution. Bon, ça, le mythe de la solution unique est disponible. Bon, c'est un peu mythique, hein. C'est peut-être aussi, c'est un sujet dans le sujet, une approche qui présente finalement un biais pas très conforme à l'enseignement même de l'Église, parce que d'abord le contenu même de la doctrine sociale de l'Église n'est pas un contenu de solution. Ce n'est pas du tout ça le sens de la doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas du tout un programme. Bon. Ensuite, il y a un problème d'anthropologie chrétienne, hein. Ce qui préoccupe l'Église dans son enseignement, c'est l'agir vertueux de l'homme, hein, mais surtout le primat dans l'action de l'homme donné à la charité et le primat donné à la fin, à la finalité, hein, à cette béatitude éternelle pour laquelle nous sommes faites et pour laquelle nous devons travailler dans le monde, hein, pour en répandre déjà la construction, pour en étendre la construction dans le monde jusqu'à la pleine réalisation. Alors, on a ces jours-ci, dans nos lectures liturgiques, toutes ces paraboles sur le royaume qui nous font réfléchir là-dessus et qui nous montrent que, en réalité, la perspective chrétienne, c'est pas la perspective d'apporter des solutions dans l'ordre temporel. Hein. C'est de rappeler toujours que l'ordre temporel, avec son pas, avec son orientation, nous emmène quelque part. Hein. Et qu'il faut que cet ordre temporel, ça c'est notre travail, puisse rejoindre la fin voulue par le Créateur. Et par ailleurs, considérer le christianisme comme une solution, c'est aussi poser qu'il y a un problème en quelque sorte en amont du christianisme, dont le christianisme serait la meilleure solution, mais une des solutions, ce qui est aussi un problème. Donc je ne sais pas si c'est exactement la perspective à retenir, mais il est vrai que la doctrine sociale de l'Église a pour vertu de nous ramener à une autre perspective que l'horizontalité, à une autre perspective que une lecture en deux dimensions de la vie, du monde et de l'histoire, à une autre perspective que l'immédiateté et l'immanence. Et que si il nous semble qu'un monde est en train de s'écrouler et que nous nous demandons quel autre monde va surgir, eh bien, peut-être pouvons-nous aussi relire tout ça selon ce qui était déjà le propos du Concile Vatican II, hein, et de dire qu'il y a beaucoup de choses nouvelles, il y a beaucoup de choses incertaines, mais il y a des choses qui demeurent et qu'il faut repartir de ce qui demeure. Finalement, l'intérêt ici et le but, c'est celui-là. Alors, pour essayer de balayer rapidement notre sujet, je vous propose de suivre deux pistes. D'abord, en essayant pour comprendre un peu ce que serait cette opinion changeante, ces mutations qui n'en seraient pas, d'essayer de regarder ce qu'on pourrait ranger du côté de la part des idées. Des idées politiques en particulier, et puis après de regarder ce qui en réalité dans ces changements relèverait du tâtonnement à la recherche d'un sens. Parce que peut-être que la caractéristique globale de ces mutations, ces perturbations, c'est que d'une manière particulièrement forte et particulièrement évidente, l'homme est à la recherche d'un sens, qu'il y a un cycle, peut-être un grand cycle, qui s'achève, un grand cycle d'explication qui se termine, non pas de manière cyclique, mais qui se termine comme une espèce d'impasse, hein, avec des points sans résolution, et que l'homme est en train de chercher. Et c'est là que va pouvoir présenter son utilité, je me méfie du terme, mais la doctrine sociale de l'Église. Finalement, pour ce qui est de la part des idées, c'est là qu'elle n'intervient pas. Elle n'intervient pas comme un corpus idéologique. Mais elle peut intervenir, elle a à intervenir dans cette recherche du sens. Là, elle a des réponses à donner à un certain nombre de questions de l'homme. Tout d'abord, donc, la part des idées. Alors, vous allez voir qu'à partir de maintenant, c'est extrêmement... ce sont des petites touches, hein, c'est de choses d'ailleurs pas très originales. Ces concepts et la manière dont nous les avons articulés présentent un trait, tout de même, c'est qu'ils sont très dépendants d'une vision qui correspond à celle du libéralisme. Ça, c'est un premier sous-point que l'on peut souligner. et que finalement, derrière ce « faut-il tout brûler, faut-il tout changer ?», il y a la question du destin du libéralisme. Le libéralisme et ses idées. Alors là-dedans, il n'y a pas que des choses libérales. Hein. Justification de la propriété, par exemple, privée, ça n'est pas l'apanage du libéralisme moderne, c'est bien antérieur au libéralisme. La légitimité, l'utilité de l'échange entre les hommes, ça c'est central pour le libéralisme, mais ça n'est pas une création non plus du libéralisme. Mais il est vrai que toute cette logique du rôle de l'homme par son travail, de la vision du monde reposant sur un socle de croissance matérielle, l'importance centrale, vitale de l'échange, et le fait que cet échange, selon des règles et dans un espace de liberté, va créer un cadre de plus en plus vaste, de plus en plus unificateur et pacificateur, ce sont de grandes idées cardinales du libéralisme. Alors justement, en termes d'opinion, il faut simplement rappeler ici, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est un sujet historique assez connu, que le libéralisme est un marqueur finalement très très intéressant et très caractéristique du grand mouvement des idées en Occident en particulier et en Europe plus spécialement. Il se situe dans un espace de concurrence entre idées politiques où il a cette caractéristique d'avoir pris le pas de manière dominante pendant longtemps, comme s'il était finalement l'idée des idées, hein, qu'il était le cadre de cette concurrence des idées, de cette concurrence des opinions, de cette concurrence des choix. Or, lui-même suit un destin tout à fait particulier. Le mouvement séculaire des idées politiques en Occident, il a été caractérisé par un phénomène bien connu qu'on appelle le sinistrisme. Qu'est-ce que c'est que ce terme barbare ? Le centre de gravité des valeurs et des idées politiques s'est séculairement déplacé sur sa gauche. C'est ça que ça veut dire. Or, pour le libéralisme, c'est plus complexe. Le libéralisme, lui, finalement, commence à gauche et il se déplace, lui, un peu dans l'autre sens. Alors, ce qui fait que le destin du libéralisme est un destin singulier, parce que comme idée devenue idée cadre, la contestation du cadre général, c'est en fait encore la contestation d'une idée. C'est la contestation des principes ou de certains principes, ou de l'articulation en tout cas, de ces éléments. Ce qui fait donc que ce positionnement libéral, c'est un positionnement relatif. Hein ? Lorsqu'on présente ce cadre en disant notre monde s'effondre, donc c'est une vision séculaire du monde qui s'effondre, mais ce n'est pas tout le monde qui s'effondre. Ce n'est pas forcément ces valeurs les unes après les autres qui s'effondrent, même si elles sont contestées aussi éventuellement chacune les unes après les autres. On va y revenir, mais on va essayer de comprendre aussi quelle est cette contestation. Alors ça tient donc pour l'opinion, à ce qui touche au destin du libéralisme, finalement. Et ça soulève, c'est un autre aspect que l'on peut regarder dans cette question du destin du libéralisme, la question des valeurs du libéralisme. Par exemple, quant à la part du travail, que là aussi, dans le libéralisme et son expression, hein, ou la forme d'organisation économique à laquelle il se conjoint en Occident, qui est à un moment donné historiquement le capitalisme. Ce n'est pas que libéral nécessairement le capitalisme, mais pour nous ça c'est historiquement conjoint. Donner une part au travail. Mais à quel travail ? À d'abord un travail qui a profondément évolué. Donc il y a quelque chose du modèle qui a l'air de changer, mais parce que tout simplement, ça fait quelque temps en Occident que moins moins de cheminées d'usines fument. C'est plus la même situation. Donc c'est plus le même type de travail, c'est plus la même part du travail non plus. La part du travail humain dans le revenu de l'homme, elle a aussi changé. À cause d'autres formes que celles du travail humain classique, d'autres sources de revenus. Et aussi parce que, et ça donne un autre aspect historique important du libéralisme, la part de redistribution et de solidarité est devenue de plus en plus importante. Ce qui fait aussi que le libéralisme n'a, pour ainsi dire, sauf dans quelques expériences, jamais connu de situation de libéralisme pur. Hein, on parle aussi de quelque chose qui est contesté, mais qui est ou contestable, mais qui est contesté comme une forme mixte également. D'autant que on est toujours en train de tâtonner historiquement sur l'équilibre entre la liberté complète et la liberté corrigée par une intervention publique. En plus de cela, les raisons pour la puissance publique d'intervenir, elles ont aussi évolué. Alors, pour nous, en France et plus largement en Europe, concevoir un modèle économique sans l'intervention de la puissance publique est quelque chose d'un petit peu inconcevable, mais on est, c'est vrai, passé d'une forme d'éminence de la puissance publique et de son rôle éminent, voire son monopole pour assurer l'intérêt général. Hein, tout a fini par se confondre pour des raisons politiques à partir de considérations qui étaient des considérations anciennes. Hein. Si je ne pense qu'à la définition que saint Thomas d'Aquin donnait de la loi, hein, qui dit que c'est certaine ordination de la raison au bien commun promulguée par celui qui a la charge de ce bien commun. Vous pouvez faire basculer ça à un moment, et c'est ce qui est arrivé, dans l'idée que ne peut comprendre le bien commun que celui qui a l'autorité parce qu'il est en charge du dit bien commun. Or, ce que saint Thomas dit, c'est que les premiers à être en charge du bien commun, c'est la communauté tout entière. Hein. Et pas seulement, mais qui se donne des responsables d'abord pour des raisons de commodité. Or, nous, dans l'histoire, les choses ont glissé comme ça. Hein. Alors, en France, certains identifient ça un peu au moment de Philippe le Bel. Hein. Ça serait un peu le moment du tournant, hein, le moment où cette espèce d'identité, ça commence avec Saint-Louis, hein, où ce qui est d'intérêt général est royal, et le roi, c'est l'État. Enfin, deux équations qui ne sont pas des équations évidentes. En fait, hein, mais qui sont une expérience historique qui elle aussi a a fini par se déliter, parce que tout ça s'est transféré après sous des régimes non monarchiques, hein, c'était la même représentation, mais il y a quelque chose là aussi qui s'est délité. Ça faisait partie de justifications anciennes. Aujourd'hui, on insiste plus, hein, de manière dominante, sur la nécessité de la redistribution pour assurer la solidarité. Et aussi par puissance, en quelque sorte, de l'égalité. Chose qui est pour nous une idée moderne, mais qui, elle aussi, peut-être là, trouve son impasse, mais on parlera un petit peu plus loin de l'égalité. Alors voilà pour le libéralisme. Vous voyez, ça reste très, très, très vaste. Et alors, dans le poids des idées, ce qui relèverait à l'opposé de l'anti-libéralisme. Dans la part de l'opinion, hein, pas seulement ce qui tient finalement au destin du libéralisme, mais ce qui tient à l'adhésion à des idées anti-libérales. Alors là, bien sûr, ce serait un sujet en soi, hein, la part de l'influence, la prégnance du marxisme. Et même si les données du marxisme, les données historiques du marxisme ont disparu, les avatars du marxisme. Ce qui frappe dans les opinions occidentales, c'est la résurgence d'un schéma d'explication relevant de la lutte des classes. Quelque chose qui semblait s'être atténué. Alors, est-ce que ça veut dire, les marxistes vous expliqueront que ça ne peut pas disparaître, que ça n'a jamais disparu jusqu'à l'avènement de la société sans classe. Dans le discours dominant, c'est un propos qui avait disparu. Aujourd'hui, il est de nouveau fortement résurgent et fortement pratiqué dans ses avatars. Hein. Ce n'est pas forcément ouvrier possédant, mais c'est aussi racisé, non racisé, comme on dit, minorité, majorité, voilà. Donc il y a de nouveaux lieux, si vous voulez. Alors là, c'est du côté du marxisme et du côté du traditionnalisme. Là, précisément dans l'opinion, alors qu'on peut voir des résurgences de références antilibérales non marxistes, on est plutôt, parce que cette opinion, c'est une opinion contemporaine, du côté de l'illusion, en fait, hein. Pas quelque chose qui est en train de renaître. Alors voilà pour la part des idées. Et maintenant, ce qui serait notre seconde piste, qui va nous amener rapidement à la conclusion, vers la question de la recherche, du tâtonnement, là où la doctrine sociale pourrait intervenir. D'abord, quant à la recherche d'une place. Ce qui frappe dans les enquêtes d'opinion sur le travail, sur la mondialisation, c'est la corrélation qu'on peut faire entre la réponse donnée et la place qu'on occupe dans cet univers. La place que j'occupe dans l'univers du travail. Si j'ai un travail, et si j'ai un travail qui est pour moi producteur de sens en étant d'abord, hein, c'est un horizon, c'est vrai un peu limité, mais dans notre univers encore très utilitariste et matérialiste, c'est le cas, hein, c'est d'abord producteur de sens parce que producteur de revenus. Je vais avoir une appréciation différente du travail, celle que j'ai si je n'ai pas de travail. Si je n'ai de manière générationnelle pas de travail, hein. Idem pour la mondialisation. Alors ça, c'est là, par exemple, l'intérêt de certains résultats électoraux. Certains résultats électoraux, ça maintenant c'est un sujet bien étudié, la corrélation entre mon choix électoral et mon intégration dans le système d'échange globalisé. Hein? Centre et périphérie, être de quelque part, être de nulle part, enfin vous avez entendu pas mal de choses, je pense, et lu pas mal de choses sur ces analyses qui sont maintenant assez, assez répandu. Et c'est ici qu'il faudrait justement, dans la recherche d'une place, accorder, si on avait un peu plus de temps, tout un temps d'analyse à la conception de l'égalité. Et à la conception de l'égalité qui a perdu petit à petit sa boussole. Hein. Une des difficultés de la vie de ce cadre, c'est que ce cadre intégrait une conception de l'égalité qui elle-même est devenue un peu folle. Hein. Réclame non plus le traitement différencié de ceux qui se trouvent dans une situation différente, mais qui réclame le traitement égal, absolu, de ceux qui se trouvent dans une situation différente. Petit à petit, c'est à ça qu'on est arrivé. Ce qui amène à des contradictions et à des tensions insolubles et ingérables. Recherche d'une place, mais recherche de sens, finalement. Et là, sur la question du travail et sur la question de la propriété, c'est très frappant. Par-delà, mon intégration dans l'univers du travail, dans les enquêtes sur le travail, c'est cela qui ressort. Hein. C'est aussi la corrélation entre le taux de satisfaction et le taux d'importance et ce que je vois de ma possibilité d'épanouissement personnel et d'utilité dans mon travail. Parce que le travail reste une valeur importante, mais une valeur importante dont le sens est questionné. Et alors justement, dans la corrélation entre le travail et l'utilité contributive du travail, l'utilité matérielle et l'utilité symbolique aussi de mon travail. Et c'est vrai que avoir vécu de longues périodes de chômage de masse, avoir vécu aussi des expériences très frappantes comme les confinements, où vous découvrez que tout un monde peut vivre sans travailler tout en percevant des revenus. Vous vous dites que vous n'agissez pas, mais vous touchez la même chose. Donc à un moment donné, aussi sur la valeur même du travail, hein. On en a bien parlé déjà hier, au moins par allusion, mais comment, par ailleurs, petit à petit, continuer à défendre le travail dans un univers qui repasse mentalement à la valorisation première plutôt du loisir que du travail. Et dans un contexte qui est un contexte tout à fait nouveau, pour la doctrine sociale de l'Église, hein, parce qu'elle parle du travail à un monde qui n'a plus le même regard sur le travail. Hein. Il ne s'agit pas seulement de parler de la valeur libératrice du travail, mais il faut parler de sa contribution créatrice, mais de sa valeur tout court. Et de même également pour la propriété. Quelque chose a peu à peu changé, ça a toujours été un grand sujet, la propriété, et la légitimité de solutions autres que celle de la propriété individuelle. Mais une perception croissante des enjeux environnementaux transforme peu à peu hein, la valeur de la propriété dans les opinions. C'est-à-dire que l'objectif de préservation des biens communs passe devant le bien individuel. Alors, il peut y avoir quelque chose de juste, mais il y a quelque chose qui transforme notre conception dominante de la propriété. Je n'entre pas dans les détails, parce que là, on pourrait donner bien des détails et bien des exemples, mais voyez, y compris dans des solutions de justice et autres, hein, là, il y a une espèce de mutation même juridique, hein, globale, qui nous fait entrer dans un univers autre quant à la valeur centrale ou la valeur de pilier de la propriété individuelle. Sur laquelle repose largement ce système. Même si pour l'Église, en revanche, sur ce plan-là et sur la doctrine sociale, sur le terrain de la doctrine sociale, les choses sont claires depuis très longtemps hein, quant à l'équilibre entre la justesse de la propriété individuelle et la destination universelle des biens et le rôle d'intendant de l'homme et non pas de prédateur. Voilà. Alors, je suis obligé d'en rester là, c'était déjà beaucoup trop long. Merci beaucoup et peut-être à vos questions. Peut-être 5 minutes de questions avant la pause. 5 minutes. Si jamais il y a des questions. Alors là-dessus, sur votre question même, je m'abstiendrai avec votre permission de répondre, mais vous soulevez un point très, très important. C'est-à-dire que, effectivement, quant à la valeur du travail, l'idée de défendre un revenu qui est lié au fait d'exister et non pas au fait d'avoir travaillé est une. Amplifie un phénomène particulier. C'est le fait d'être et le pas de faire qui génère un revenu. Là. Quant au fait l'accroissement des richesses dépendra de plus en plus d'un travail qui n'est pas le travail des humains, c'est aussi une question très intéressante. Alors celle-là, l'Église commence à travailler pour la l'Académie pontificale des sciences, il y a eu une session de travail sur l'intelligence artificielle et dans le magistère récent de l'Église, ou en tout cas dans un certain nombre d'interventions de l'Église récentes, toutes récentes, il y a l'expression d'un point d'attention, là, d'un point de vigilance, à la fois quant à la mécanisation, la robotisation, ça c'était déjà une question un peu abordée, dans les réflexions les plus contemporaines sur le travail, mais aussi quant à cette question de substitution progressive de l'œuvre propre relevant des facultés supérieures de l'homme par une machine, par l'intelligence artificielle. Alors il y a peut-être quelque chose qui relève d'une constante du fait d'une structure de péché, oui, mais il y a quelque chose qui rend toujours profondément actuel le discours de l'Église quant à la solidarité en fraternité de tous ceux qui sont dans ce système. Oui. Peut-être une dernière question. Oui.
Voilà, merci beaucoup.